Bonjour, nous voilà à la deuxième partie de cette étude au sujet du Saint-Esprit. On a commencé donc vendredi passé. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta présence avec nous qui nous conduit toujours dans toute la vérité. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es en train de rétablir toutes choses dans ton Église. Et je te prie que nous soyons attentifs afin que personne ne tombe dans des excès et que tout le monde soit bien équilibré dans ces choses sacrées. Dans le nom de Jésus, je te prie, mon Dieu. Amen. Oui, on va commencer par faire une lecture dans Actes chapitre 12 et verset 1. Pour ce qui concerne les choses, vous voyez, les choses de l'esprit, frères, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. Il y avait déjà des gens qui ne comprenaient pas bien, il y avait des exagérations dans l'église de Corinthe en particulier. Et heureusement, parce que comme ça, au moins, l'apôtre Paul a écrit, ce qui fait que nous avons maintenant une connaissance claire des choses de l'esprit. Alors voilà, vous savez, donc Paul continue, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez passivement entraîné dans l'erreur vers des idoles qui ne peuvent parler. C'est pourquoi je veux vous faire clairement comprendre qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu ne peut dire « maudit soit Jésus » et qu'aucun homme ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a également différentes manières de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et il y a différentes façons d'œuvrer, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. De plus, il est donné à chacun une manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, une parole de sagesse est donnée par l'Esprit, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre encore, des dons de guérison par le seul Esprit, et à un autre est donné le pouvoir de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la capacité de discerner des esprits, à un autre le parler en toutes sortes d'autres langues, et encore à d'autres la capacité d'interpréter les langues. C'est le seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun comme il lui plaît, car le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et tous les membres du corps, bien que nombreux, constituent un seul corps, ainsi en est-il du Messie. En effet, c'est par un seul esprit que nous avons été immergés dans un seul corps, que l'on soit juif ou païen, esclave ou libre, et tous nous avons reçu d'être abreuvés à un seul et même esprit. Amen. Vous voyez, il y a donc... J'avais commencé à enseigner ces choses vendredi passé, je vous avais... Donc révéler qu'il y a certaines traductions qui sont erronées en ce qui concerne 1 Corinthiens 12, 13. Nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit pour faire partie du corps, mais nous sommes baptisés dans le corps par le Saint-Esprit. C'est très différent. Maintenant, vous savez que c'est dans le corps de Christ que vous avez été baptisés par le Saint-Esprit. C'est donc deux choses différentes. Il y a le baptême dans le corps par le Saint-Esprit, et il y a le baptême dans le Saint-Esprit, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Faut pas tout mélanger. Et puis ensuite, comme dans l'Église primitive, avant que les apôtres ne meurent, l'enseignement y était pur, et les chrétiens savaient qu'après avoir reçu l'Esprit Saint à la nouvelle naissance, ben ils priaient pour recevoir ce que les 12 disciples avaient reçu aussi, eux, le jour de la Pentecôte. Et je vous ai enseigné ça en ponctuant mon prêche, mon enseignement, avec les versets bibliques adéquats qui attestent que c'est ainsi, puis c'est pas autrement. Après, c'est tout des dérapages faits par des gens, en général, un peu exaltés, mystiques, pour pas dire un peu dérangés. Bon, voilà. Alors, ce soir, nous allons voir ce qui s'est réellement passé le jour de la Pentecôte. On va lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Quand la fête de Shavuot arriva, Shavuot c'est le mot hébreu pour Pentecôte. Quand la fête donc de Pentecôte arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, un son vint du ciel comme le rugissement d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Ruach Kodesh, c'est-à-dire du Saint-Esprit. du souffle de Dieu. Et ils commencèrent à parler en différentes langues selon que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Or, des Juifs religieux de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Jérusalem, et lorsqu'ils entendirent le bruit, donc du vent impétueux, une foule se rassembla donc autour de la maison où ils étaient là, et ils étaient perplexes car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Tous étonnés, ils demandaient, mais comment est-ce possible, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, résidents de Mésopotamie, de Yéhouda, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye près de Cyrène. Nous sommes des visiteurs de Rome, des Juifs de naissance, des prosélytes, des Juifs de Crète, d'Arabie, bref. Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos propres langues des choses merveilleuses que Dieu a faites? Ils les entendaient parler dans leur propre langue des choses merveilleuses que Dieu a faites. Étonnés et dans la confusion, ils se disaient les uns aux autres que peut bien vouloir dire ceci. Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, bah, ils ont juste bu un petit peu trop de vin. Puis Képhas, c'est-à-dire Pierre, se leva avec les onze et d'une voix forte il s'adressa à eux. Vous les Judéens et vous tous qui séjournez à Jérusalem, je vais vous expliquer ce que signifie tout ceci. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Et il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et il cite la prophétie de Joël. Adonai dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes hommes auront des visions, les hommes âgés auront des songes. Même sur mes serviteurs hommes et femmes, je répandrai de mon esprit en ce jour-là et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, de la fumée épaisse. Le soleil deviendra obscur et la lune comme du sang. Avant que l'effrayant et grand jour d'Adonai vienne, alors quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. Alors, Shavuot, c'est le mot hébreu que nous traduisons par Pentecôte. Shavuot, c'est toujours la fête des semaines chez les Juifs. Elle commence 7 semaines après Pessah, c'est-à-dire après la Pâque. Pourquoi est-ce que nous autres, nous disons Pentecôte? Parce que le mot Pentecôte signifie 50. Et qu'on peut compter 50 jours après la Pâque pour arriver à la fameuse fête des semaines, Shavuot. C'est tout simple, c'est que ça. Donc la fête de Shavuot était aussi une des 3 régalim. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Eh bien, ça veut dire que c'était une des 3 fêtes de pèlerinage. Les Juifs faisaient des pèlerinages lors de 3 fêtes. Et donc, ils venaient de partout à Jérusalem pour célébrer ces 3 fêtes. Et les 2 autres fêtes, donc à part celle de Shavuot, c'était Pâques et la fête de Soukhot, c'est-à-dire la fête des cabanes. Où ils se rappelaient qu'ils avaient vécu dans des cabanes quand ils étaient partis d'Égypte pour venir en Israël avec Moïse. Donc les Juifs du monde entier, connus d'alors, venaient à Jérusalem lors de ces 3 fêtes, donc ils étaient là à la Pentecôte. Il y avait un monde fou. Les Juifs venaient de tous les pays du monde connu d'alors et la liste nous est donnée dans Actes 2, 9, 11 qu'on vient de lire. Jérusalem grouillait de monde et c'est ce jour-là que Dieu a choisi. Il y a eu un bruit terrible dans le ciel qui s'est concentré sur une maison et c'est la maison où se trouvaient les 120 disciples de Jésus. Donc la foule accourt. Je voudrais quand même noter une chose. Je crois, moi, que c'est sur l'initiative des femmes que les disciples se sont réunis à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh ben, je dis ça parce que quand je lis les Écritures attentivement, ben, je m'aperçois quand même que c'est écrit de façon à ce qu'on puisse le comprendre, mais c'est quand même un peu discret, parce que voilà, c'est des hommes qui écrivent, ils sont un peu machos. Disons Actes 1, 12, 14, allez voir. Si vous êtes un peu fin, vous allez comprendre. Les disciples retournèrent à Jérusalem de la colline appelée du Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, fils de Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. C'est pas écrit que les femmes persévéraient avec les disciples, c'est écrit que les disciples persévéraient avec les femmes. Voilà, ce qui me fait dire que c'est des femmes qui avaient organisé cette réunion de prière et que les disciples s'y sont joints. Mais bon, ça c'est pas très important. Mais quand même, je pense que là il y a un petit clin d'œil pour nous montrer que déjà à l'époque, eh bien les femmes étaient plus assidues dans la prière que les hommes. Voilà. Pardon, je suis pas en train de me faire des copains. Mais tant pis, pour les machos, moi je vois ça comme ça. Donc, tout ce petit monde priait, attendant que ce que Jésus avait promis, et qu'on trouve dans Actes 1, 4, 8, Jésus dit, juste après être ressuscité, juste avant de monter au ciel, il leur dit, au cours d'une de leurs rencontres, il recommanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé de ma bouche, car Jean, le Baptiste, immergeait les gens dans l'eau, mais dans peu de jours, vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Et un petit peu plus loin, il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui descendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Donc, ce jour est arrivé, ils ont attendu, et puis ce jour est arrivé, et le souffle de Dieu s'est manifesté comme un bruit rugissant d'un vent impétueux dans le ciel, et il est rentré dans la pièce où ils étaient en train de prier, et tout à coup ils ont vu ce qui leur semblait être des langues de feu, qui se séparaient, qui sont venues se poser sur chacun d'eux, et ils étaient 120 personnes, à mon avis il y avait plus de femmes que d'hommes. Voilà, ça c'est dit. Je crois que il faut le dire. Merci les sœurs d'être des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas grand-chose à manifester. Heureusement, il y a des femmes qui prient. Et comme ça, les hommes sont bénis. C'est vrai. Et voilà, tous remplis du souffle de Dieu. Et ils commencent à parler en différentes langues selon que l'Esprit, le souffle de Dieu, leur permettait d'exprimer. Alors tous les gens ont accouru vers la maison pour savoir ce qui se passait. Et là, ils sont perplexes. Voilà, de parler en langue, ça laisse perplexe encore aujourd'hui, hein. Car chacun les entendait parler dans leur propre langue. Alors certains se moquent, hein, poussés par un esprit de moquerie. Et vous savez, les gens, là, ces moqueurs, ils sont tous morts, hein. C'est normal, ça fait 2000 ans, ils sont tous morts. Par contre, l'esprit mauvais de moquerie qui les inspirait, ben il n'est pas mort lui. Il continue, il a trouvé des nouvelles personnes pour pouvoir se moquer et continuer à se moquer du parler en langue. Ben c'est grave, mais bon, c'est comme ça. Moi je ne me moque pas. Il y a eu juste une fois où j'ai trouvé un parler en langue étrange. Je ne me suis pas moqué, mais j'étais un peu inquiet. Je travaillais à l'époque à Teen Challenge, nous avions des réunions de prière là pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit et un homme est arrivé, ça avait l'air d'être un homme d'affaires, il avait une belle voiture, bien habillé et tout, ça faisait un petit peu bizarre parce que la plupart des gens qui étaient là c'était des drogués, et puis il s'est converti et il a demandé à ce que nous prions pour lui pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, donc... Je prie avec lui et voilà qu'il se met à parler en langue. Et c'était un parler en langue pour moi qui m'a terrifié. J'ai trouvé ça terrible. Et bon, j'ai rien dit, mais j'ai dit, le frère était réjoui, pleurait, il était dans un état, c'était magnifique. Mais moi, son parler en langue, j'ai trouvé bizarre. Et puis, on rentre chacun chez soi. Moi, je rentre au centre Teen Challenge. Et le lendemain soir, ce monsieur revient avec un de ses amis. Et cet ami me prend à part. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? Je dis, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, oui, mon ami est rentré hier soir vers minuit. Il m'a réveillé pour me dire qu'il avait reçu le don de l'esprit et qu'il parlait d'autres langues. Et on s'est assis dans le salon et il s'est mis à parler en arabe littéraire parfait. Il parlait de Jésus, il parlait de la gloire de Dieu, de Jésus qui allait bientôt revenir. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? Je sais pertinemment, je sais absolument qu'il ne sait pas un traître mot d'arabe. Et il se présente, il dit, moi je suis interprète, je traduis les livres français en arabe et les livres arabes en français. Et je sais que mon ami parle un arabe maintenant qui est tout à fait littéraire, qui est parfait, mais vous l'avez fait quoi? Alors moi, je me suis un peu repenti hein, dans mon cœur d'avoir douté de son parler en langue, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était en 72, moi j'avais jamais entendu vraiment des arabes parler. En Suisse, on n'en avait pas, des arabes, donc j'avais jamais entendu cette langue, et elle m'a paru terriblement étrange, voilà, c'est tout. Donc, mais je me suis pas moqué, moi, je me suis pas moqué. Il y en a, ils se moquent. Bon, ils font comme ils veulent. Hein. Et alors, bon, Pierre parle, il interrompt tout ce monde, il parle d'une voix forte, il dit « Je vais vous expliquer ce qui se passe. » Et puis il leur explique. Et il cite une prophétie qui est donnée par le prophète Joël, qui avait vécu environ 9 siècles avant. Il y en a qui pensent que c'était 7 siècles avant. On n'est pas tout à fait sûr là-dessus. Et ils disent que vous venez d'entendre et de voir, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui dit que arrivera un temps, à la fin des temps, dans les derniers jours, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair, et lorsque quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu, ben il pourrait prophétiser. Alors, il parle en langue ou il prophétisait? Ben écoutez, les gens entendaient quoi, ces juifs qui étaient là à Jérusalem? Ils entendaient les 120 qui parlaient dans leur propre langue. Et de quoi parlaient-ils? Ben la Bible nous le dit, des merveilles de Dieu. Ils parlaient des choses de Dieu. Ils ne parlaient pas de carglass qui répare ou qui remplace. Ils parlaient de Dieu, des choses merveilleuses de Dieu. Ils les entendaient ainsi. Quand on parle en langue, c'est ce que nous faisons. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime au travers de nous. Même si nous ne comprenons pas, même si pour nous c'est un mystère, on va le voir plus loin, eh bien c'est une louange qui monte vers Dieu. Ou c'est des prophéties qui ont besoin d'être interprétées. On va y venir. Donc voilà, les disciples de Jésus sont des témoins puissants, comme Jésus le leur avait dit. Et comme il y avait des gens qui parlaient toutes sortes de langues, ben Dieu a fait ce miracle extraordinaire. Ils ont été remplis et immergé dans le Saint-Esprit, on l'a lu dans, comme c'est écrit dans la promesse que Jésus leur avait faite dans Actes 1, 4, 5, et cela a été maintenant rétabli dans l'Église de Jésus-Christ en juin 1829. Je vais vous lire un court témoignage d'une personne qui s'appelle Karl G. Mister. Il est né en 1828 et il est mort en 1901. Cet homme était un grand éducateur dans l'Église. Il naquit, grandit et fit ses études en Allemagne. Tandis qu'il enseignait, il a rencontré des missionnaires et il était baptisé en 1855 dans l'Elbe par Franklin D. Richards. Après le baptême, les deux hommes conversèrent grâce au don des langues et à l'interprétation des langues. Vous savez qui c'était cet homme? Un mormon. Hein? Quand je vous disais l'autre jour que ce ne sont pas les pentecôtistes les premiers à avoir parlé en langue. En 1800 et quelques. Alors, il y a encore de la confusion au sujet du baptême dans le Saint-Esprit et le don, et les dons du Saint-Esprit. On va en parler. Pour ma part, je crois ce que la Bible dit, point barre, même s'il y a des expériences qui viennent contrarier ce que la Bible dit. Moi, c'est pas les expériences que je prêche ou que je crois, c'est ce que la Bible dit que je crois. Pour ma part, donc, je crois ce que la Bible dit. 1. Jésus a dit que tous ceux qui croiraient parlerait en langue, dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans la liste, il y a « Ils parleront de nouvelles langues ». Je crois ça. Si vous croyez que ce don est pour vous, c'est pour vous. Ce don-là, il sert à quelque chose, quand vous le manifestez. Il sert à vous édifier. On va lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Et verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit, s'édifie. Mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. J'aimerais que vous parliez tous en langue, mais je désire encore plus que vous prophétisiez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un donne une interprétation afin que toute l'assemblée en reçoive l'édification. Je crois ça. Et celui qui parle en langue, il parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Continuez à chercher ardemment les choses de l'esprit, cherchez tout spécialement le don de prophétie, puisque c'est quand même plus important que le parler en langue, comme on vient de le voir. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, puisque c'est par la puissance de l'esprit qu'il dit des mystères. Bon, alors, il parle à Dieu. Voilà, ça c'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ah bon ? Pourtant, les gens, le jour de la Pentecôte, ils ont compris ce qu'ils disaient, les apôtres. Ils n'étaient pas en train de parler à Dieu, ils parlaient des choses de Dieu, et ils parlaient, et les gens les comprenaient. Donc quand c'est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, ben là, il y a eu une exception. Il y a eu une exception ? Non. Je vais vous expliquer, écoutez-moi bien. Parce qu'après cela, je ne le prêcherai plus jamais, ça. Parce que, voilà, c'est vraiment pour les bébés spirituels. Et je ne veux pas revenir tout le temps sur ce béaba. Donc je le dis une fois, mais après je ne le dirai plus. Le parleur langue est un des dons de Dieu faits à ceux qui reçoivent la plénitude dans le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même et il se fortifie et il se construit. Ok. Si vous pensez ne pas avoir besoin de vous édifier vous-même, pas de problème. Si vous êtes fort, si vous avez un témoignage puissant, si vous êtes tout le temps renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est formidable. Moi, j'ai besoin de parler en langue. L'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous. » Pas de problème. Si vous pensez que vous pouvez mépriser ce don que Dieu vous fait pour que vous puissiez être édifié, ben c'est bien. Ça vous regarde. Donc celui qui parle en langue le fait pour Dieu et pour lui-même. Il parle à Dieu et il se fait du bien à lui-même. Mais pour être utile à l'Église, il peut utiliser le parler en langue auquel il va ajouter le don d'interprétation de ces langues. Il vous faut rechercher ce don-là. Si vous parlez en langue, il vous faut rechercher ce fameux don d'interprétation des langues. Verset 5, celui qui prophétise, voyons où est-ce que c'est. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un donne une interprétation afin que toute l'assemblée en reçoive de l'édification. Donc, vous vous édifiez vous-même en parlant en langue, mais vous pouvez édifier l'Église si vous parlez, par exemple, si vous parlez en langue et que vous donniez l'interprétation ou que quelqu'un d'autre donne l'interprétation de ce que vous avez dit. Ça m'est arrivé dans les années 80 dans l'église du pasteur Burki aux Andelys. Il doit y avoir encore des gens qui vivent là-bas et qui ont été témoins de ça. Il y avait là un pasteur anglais du nom de Vic Ramsey avec son épouse Jane. Et au culte, un homme s'est levé et s'est mis à parler en langue. Ça a duré une minute à peu près. Et puis, moi, j'étais sur l'estrade avec les pasteurs, je me suis levé et j'ai donné l'interprétation de cette langue. Il faut que vous compreniez. J'ai pas compris ce que l'homme avait dit en langue. J'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit. Mais j'ai donné l'interprétation d'une façon surnaturelle. Et le pasteur anglais Vic Ramsey et son interprète, le pasteur Roland Burki, étaient là. Et ils ont entendu le parler en langue et ils ont témoigné que le parler en langue était un parfait anglais. C'était dans un anglais parfait. Et que mon interprétation était exactement ce que ce monsieur avait dit en langue. Alors je réexplique. Le monsieur qui a parlé en langue, c'était notoirement connu qu'il ne parlait pas un traître mot d'anglais à part yes et alléluia. Il ne parlait pas anglais, il ne savait pas l'anglais. Et il a parlé en anglais, et moi j'ai interprété, ne sachant rien du tout de ce que cet homme avait dit, et ne parlant même pas moi-même anglais. Je vais vous donner mon anglais, ça va être rapide. God save the queen, look at the cat, my tailor is rich, alléluia. Voilà, c'est tout. Ça c'est mon anglais. Par contre, par le Saint-Esprit, j'ai interprété ce que cet homme a dit. C'est des dons surnaturels. Et je sais de quoi je parle puisque je le vis. Je vous raconte un autre témoignage. ma sœur Camélia, la vieille sœur gitane, qui parle français et encore, qui cabossait le français, un jour elle s'est retrouvée en Algérie pendant la guerre, dans une voiture, et ils allaient visiter des chrétiens dans la montagne, et tout à coup il y a des Algériens qui sont sortis de nulle part avec des armes, et ils les menaçaient en criant et tout. Et ils étaient tous terrorisés dans la voiture, mais Camélia est sortie de la voiture, elle les a pointés du doigt, elle leur a parlé en langue dans la figure. Et les Arabes ont été stupéfaits et ils sont partis en courant comme s'ils avaient vu le diable. Et puis Camélia est rentrée dans la voiture et le pasteur, qui s'appelait le pasteur Bezaken, il a dit, Benzaken, il lui a dit, mais tu m'avais jamais dit que tu parlais arabe. Elle dit, mais je parle pas arabe. Elle dit, tu viens leur dire en arabe que si vous touchez les gens qui sont dans cette voiture, la malédiction de Dieu sera sur vous. Ah bon, j'ai dit ça? Elle dit oui. Donc elle s'était adressée à ces hommes dans leur langue. Vous comprenez? Voilà. Alors, qui est le plus grand? Celui qui prophétise ou celui qui parle en langue? C'est celui qui prophétise. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses aux gens. Maintenant, celui qui parle en langue, s'il a interprété, c'est la même chose. Parce que le parler en langue peut être une prophétie. Peut être une parole qui vient de Dieu pour les gens. Elle peut avoir besoin d'interprétation, du don d'interprétation. Parce que le don de parler en langue, en fait, c'est le plus petit des dons. C'est le plus simple. Il ne sert qu'à Dieu et à soi-même en réalité. Au verset 13, c'est écrit... par conséquent, celui qui parle, donc dans 1 Corinthiens 14, hein, par conséquent, celui qui parle en langue doit prier pour recevoir la puissance d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure inactive. Que faire donc? Ben, je prierai avec mon esprit, mais je prierai également avec mon intelligence. Vous voyez, quand on parle en langue, on ne parle pas avec notre intelligence, on parle par l'esprit. Mais par l'esprit, on peut aussi apporter l'interprétation de ce qu'on a dit. Quand on est en public, mais quand on est tout seul, moi j'ai pas besoin de savoir ce que Saint-Esprit dit au travers de ma bouche. Quand je prie dans ma chambre tout seul, je parle à Dieu, je lui dis des mystères et je suis très content. Et cela me fortifie, cela me bénit. Eh oui. Donc c'est pas écrit par hasard. C'est écrit que celui qui parle en langue doit prier pour recevoir le don d'interpréter. C'est un devoir. Tu dois le faire. Et déjà des gens qui parlent pas en langue. Alors comment voulez-vous qu'ils aillent chercher l'interprétation des langues? On va lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 6. Frères, supposez que je vienne vous voir et que je vous vois parler en langue. Frères, supposez que je vienne vous voir et que je vous parle en langue. En quoi vous serais-je profitable? À moins que je ne vous apporte une révélation, une connaissance, une prophétie ou un enseignement. Donc ça sert à rien. Par exemple, si moi j'arrive et que je vous parle en langue pendant trois quarts d'heure sur révélation Bible, ça vous sert à rien. Il faut que je vous parle en m'apportant une révélation, une connaissance, une prophétie ou un enseignement. Mais ça sert à rien de prêcher en langue. Ainsi en est-il des instruments de musique inanimés comme la flûte et la harpe. Comment en reconnaîtra-t-on la mélodie si leurs notes ne peuvent être différenciées les unes des autres? Si la trompette émet un son qui n'est pas clair, qui se préparera pour la bataille? De même, comment vous comprendra-t-on si vous n'utilisez pas votre langue pour dire des choses intelligibles? C'est-à-dire que si je viens vers vous et que je vous parle en langue, ça n'est pas intelligent. Mais ça ne veut pas dire que le don des langues est un don stupide. Simplement, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même, prioritairement. Et dans certains cas, ça peut édifier les autres s'ils comprennent la langue. Vous parlerez en l'air si vous faites ça. Si je vous parle en langue, je parle en l'air, ça sert à rien. Il y a incontestablement toutes sortes de sons dans le monde et aucun d'entre eux n'est dépourvu de sens. Mais si je ne comprends pas le son qui est émis lorsqu'une personne me parle, je suis un étranger pour lui, il est un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous cherchez ardemment les choses de l'esprit, cherchez tout spécialement ce qui contribuera à l'édification de tous, à l'édification de l'assemblée. Voilà pourquoi le parler en langue, c'est quelque chose dans l'assemblée. S'il n'y a pas de personnes qui ont le don d'interpréter, ben on se tait, on ne parle pas en langue dans l'assemblée, ça fait fouillis. Ou alors, on se met d'accord pour dire, bon, on va avoir un moment de louange en langue. Bon, ben, on se met d'accord. D'accord? Mais autrement, dans l'assemblée, dans l'église, on parle en langue et on donne l'interprétation. Ou alors, on prophétise. Alors, j'espère que c'est bien compris. On va aller un peu plus loin maintenant. On va lire 1 Corinthiens 12, verset 7. Verset 7. De plus, il est donné à chacun une manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, une parole de sagesse, on a déjà lu ça. On a déjà lu ça. Le corps, en effet, je prends verset 14, le corps, en effet, n'est pas constitué d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps, il ne cesserait d'être du corps pour autant. Si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps, elle ne cesserait pas pour autant d'être du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? S'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Car si tous étaient un seul membre, où serait le corps? En effet, il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou à la tête, ou la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles s'avèrent d'autant plus nécessaires. Les membres du corps que nous estimons les moins dignes, nous leur accordons plus d'honneur, et les membres des moins attirants sont ceux que nous essayons de rendre plus avenants, alors que nos membres les plus attirants n'ont pas besoin de tels égards. Dieu a donc disposé de manière à donner davantage d'honneur aux membres qui en manquent, afin qu'il n'y ait aucun désaccord au sein du corps, mais qu'au contraire, tous les membres aient également soin les uns des autres. Ainsi, si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres sont dans la joie. Vous êtes tous ensemble le corps du Messie. Et individuellement, vous en êtes les membres. C'est ainsi que Dieu a établi dans sa communauté messianique, dans l'Église, premièrement, donc il y a une hiérarchie. Premièrement, les émissaires. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Puis, ceux qui opèrent des miracles. Viennent ensuite ceux qui ont les dons de guérison. Ceux qui ont des compétences pour aider, financièrement. Puis, ceux qui savent gérer les affaires. Ceux qui parlent en diverses langues. Ça, c'est le dernier, vous avez remarqué. Tous sont-ils émissaires, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, ou tous ont-ils le don d'opérer des miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Point d'interrogation. Aspirez donc aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer maintenant la voie par excellence, c'est donc l'amour, comme je vous le disais la dernière fois. Alors, c'est sur ce texte-là que les incrédules ou les mal enseignés se basent. Pour dire que tous ne parlent pas en langue. C'est certain que tous ne parlent pas en langue. Mais Paul dit, 1 Corinthiens 14, 5, il dit clairement, est-ce que c'est bien ça? 1 Corinthiens 14, 5, ben je ne trouve pas. J'aimerais que vous parliez tous en langue, il dit l'apôtre Paul. Tous parlent-ils en langue? Non. Et encore aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui parlent pas en langue. Et pourtant, Paul dit, j'aimerais que vous parliez tous en langue. Pourquoi? Ben parce que c'est pour vous édifier. Combien de chrétiens sont des gens qui traînent par terre? Ils arrivent jamais. Alors, que désirez-vous? Avant de pouvoir parler en langue, qu'est-ce que vous désirez? Soyez sincères. Est-ce que vous désirez avoir le pouvoir de parler en langue pour pouvoir vous édifier, pour parler à Dieu? Disons des mystères à Dieu. Celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. C'est 1 Corinthiens 14, 2.
Ça vous intéresse pas, non, ça me intéresse pas. Oh, bon, ben, Dieu, il veut donner ce don, ben, bon, mais moi, je veux pas, ça m'intéresse pas, voilà, mais je crois pas, non, je veux pas, ben, c'est fini, hein, ça s'est terminé avec les apôtres, j'en veux pas, je parle pas en langue, puis c'est tout.
Mais si vous croyez, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croient, Marc 16, 17, et il y a le parler en langue dedans. C'est une question de comment vous avez été enseigné, par qui vous avez été enseigné. Si c'est quelqu'un qui ne croyait pas dans le parler en langue, c'est sûr qu'il ne va pas vous transmettre la foi au sujet du parler en langue. C'est une question de foi, et puis c'est aussi une question de respect pour ce que Dieu donne. Si Dieu juge que c'est bon que ses enfants puissent parler en langue pour être édifiés, mais qui êtes-vous pour vous moquer du parler en langue ou pour dire « bon, je m'en suis passé jusqu'à maintenant, je peux m'en passer encore ». Puisque Dieu veut vous le donner, pourquoi est-ce que vous méprisez ce don? Dans 1 Corinthiens 14, 39, Paul dit « Ainsi donc, mes frères, cherchez ardemment le don de prophétie » et n'interdisez pas de parler en langue, mais que tout se fasse dans la décence et dans l'ordre. Parce que déjà, chez les Corinthiens, il y avait des gens qui parlent en langue à tort à travers, n'importe quand, qui interrompaient le prédicateur pour parler en langue, ou n'importe quoi. Il faut que ça se fasse dans l'ordre. Paul nous exhorte tous à aspirer au don de prophétie et à ne pas empêcher de parler en langue ou de s'en moquer comme s'en moquaient les incrédules à Jérusalem. Ce qui veut dire surtout, ce qui veut dire là, Paul, c'est que ceux qui manifestent un don surnaturel ne doivent pas s'enorgueillir. Il dit que l'amour ne cessera jamais, alors que le parler en langue et tous les autres dons, ils vont cesser. On trouve ça dans 1 Corinthiens 13, 9, 10. Donc le parler en langue, c'est quelque chose. Dans le paradis, on ne parlera plus en langue. On ne prophétisera plus non plus. Mais maintenant, sur terre, on en a besoin. Vous en avez besoin. Donc, l'amour, c'est le plus important. C'est plus important que les dons, que la connaissance. C'est plus grand que tout, ça c'est sûr. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez vous offrir le luxe de vous priver d'un don que Dieu veut vous faire. Moi, si je viens chez vous, et puis que je vous apporte un cadeau, puis que vous disiez « Oh non, bof. » Ben, je vais vous prendre pour un goujat. Moi, quand quelqu'un vient chez moi, puis qu'il m'offre quelque chose, même si c'est une chose que je trouve pas géniale, je le prends par politesse. Alors, je vous demande pas d'être poli avec Dieu, je vous demande d'être reconnaissant à Dieu, d'avoir pourvu, pour que vous puissiez, dans vos moments difficiles, vous recueillir et parler dans ce langage de l'esprit, pour ressortir de votre chambre édifié, construit, raccommodé. Paul le dit, je désire que vous parliez tous en langue, et moi aussi je vous le dis, je désire que vous parliez tous en langue. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez, vous vous construisez, vous reprenez des forces. Moi, si vous pensez que vous n'avez pas besoin, très bien, arrêtez là, on n'en parlera plus. D'ailleurs, je ne prêcherai plus jamais ces choses. Le baptême dans le Saint-Esprit ne fait pas de vous un parleur en langue, il fait de vous un témoin puissant. Et le don des langues étant le plus petit des dons, et celui dont vous avez besoin d'une façon personnelle, Dieu vous l'accorde. Mais le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le signe initial que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit est que vous êtes un témoin puissant. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Jésus, je te prie pour que mes frères et sœurs comprennent bien. Je sais que ça peut paraître un peu mélangé. Mais l'apôtre écrivait pour répondre à des questions et maintenant nous avons à chercher à comprendre pourquoi il écrivait ces choses. Et merci mon Dieu de m'avoir éclairé, de me permettre de pouvoir donner ce message à mes frères et sœurs afin qu'ils soient éclairés. Je te prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que si quelqu'un n'a pas bien compris, qu'il ne mette pas cela de côté avec négligence, mais qu'il reprenne ce message dès le début et qu'il l'écoute, qu'il prenne des notes, qu'il réfléchisse, qu'il prie et qu'il te demande, ô Dieu, je te prie, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi aussi ce parler en langue afin que je puisse m'édifier moi-même. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Vendredi prochain, on reviendra sur les dons spirituels pour voir comment manifester ces choses-là, comme le don de guérison, le don de discernement des esprits, le don de faire des miracles. Tout ça, ce sont des choses qui sont à votre portée. On reviendra là-dessus. Vendredi prochain, en attendant, Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Merci.